dans l'église du Tabor. Je vous accueille pour cette conférence sur la famille dans la société d'aujourd'hui. Immense sujet. Et pour cela, j'accueille particulièrement mon collègue, le pasteur Luc Oleknovitch, qui a fait cet après-midi une émission sur la fin de vie sur RCF. Et j'accueille aussi la sœur Marie-Vonne Nivois, qui dirige, si je puis dire, ce groupe œcuménique théologique depuis déjà quelques années. Je vous accueille donc autour de ce sujet important qui sera apporté dans une conférence et après nous aurons, si possible, un débat. Mais je laisse la sœur Marie-Vonne Nivois nous expliquer le déroulement.
Comme l'a dit le pasteur Leprat, l'exposé débat de ce soir est sous l'égide de l'association œcuménique de Rennes, qui regroupe des catholiques, des orthodoxes et des protestants, des différentes traditions. En Ille-et-Vilaine, il existe plusieurs groupes de réflexion. Sur Rennes, deux ateliers bibliques, l'un animé par le pasteur Olivier Putz, l'autre par Madame Myriam Prut, catholique, et un atelier plus théologique, comme on vient de le dire, coordonné par moi-même, qui suis catholique. Sur Saint-Malo, Dinard, il y a le groupe des Bords de Rance, qui regroupe aussi protestants, catholiques, orthodoxes et anglicans. Bien entendu, ces groupes sont ouverts à tous les chrétiens qui désirent réfléchir et agir ensemble. Nous sommes tous membres du même corps du Christ par la foi. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être accueillis dans cette belle église du Tabor, qui a été bien restaurée par les membres de l'église évangélique protestante, et je crois que nos ancêtres peuvent être fiers de vous. Je tiens aussi à remercier le pasteur Jacques Leprat, qui fut d'une grande aide dans la préparation de cette soirée, qui aborde des questions importantes dans la société d'aujourd'hui, tout particulièrement la famille. Cette soirée va débuter par l'exposé du pasteur Luc Oleknovitch, qui nous aidera à mieux cerner les enjeux qui se jouent dans la procréation médicalement assistée et dans la gestation pour autrui. Cet exposé sera suivi d'un débat avec les membres qui participent, avec vous. Vous pourrez poser des questions, des papiers vous ont été déjà remis et on vous laissera un petit temps pour les écrire. Nous terminerons cette rencontre pour vers 22h30 au plus tard et nous terminerons par une prière qui nous est commune, le Notre Père. Je laisse la parole au pasteur.
Merci sœur Marie-Vonne, merci pasteur Jacques Leprat pour votre accueil et surtout cette invitation à parler d'un sujet si important. Alors, je suis d'abord pasteur, et je dirais pasteur de banlieue, en banlieue parisienne. L'église où je suis se trouve à Viry-Châtillon, qui se trouve en face de la cité de la Grande Borne, à Grigny. Vous en avez peut-être entendu parler à l'occasion des attentats, c'est de là que venait Hamedi Coulibaly. Donc, j'ai les pieds dans le terrain, je vois aussi la difficulté des familles, et en particulier des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Donc je suis sensible à ces questions. Et en même temps, je suis impliqué au niveau national, donc en tant que membre de la commission éthique et société de la Fédération protestante de France, qui regroupe diverses familles spirituelles du protestantisme. Je suis aussi impliqué dans des dialogues avec l'Église catholique. Donc, voilà, Et j'ai été, en 2009, j'ai fait partie du groupe de travail bioéthique de la Fédération protestante qui a produit un texte à l'occasion des états généraux de la bioéthique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il y a eu à Rennes, d'ailleurs, un débat dans le cadre de ces états généraux de la bioéthique. Et j'ai rédigé donc le chapitre justement sur la procréation assistée. Et dans un groupe de travail où il y avait des luthériens, des baptistes, des théologiens, des médecins, j'ai été impressionné par l'unité de pensée à laquelle nous sommes arrivés. On parle souvent de la diversité protestante, mais là, il y a eu un travail intra-protestant, je dirais, d'écuménisme intra-protestant, qui a été très fructueux. Alors, la famille. La famille, j'emprunterai une des définitions du dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne. Appartenir à une famille, c'est y naître et y recevoir un nom. Dans une famille, on naît et on reçoit un nom. À la fois la chair, l'engendrement, et la parole. Nous sommes inextricablement des êtres de chair et de parole. Or, la procréation médicalement assistée, officiellement l'assistance médicale à la procréation, vient justement bouleverser tout cela. Cette technique, qui était à l'origine destinée à pallier la stérilité dans un couple, est maintenant utilisée et détournée, dirais-je, comme une revendication, comme un support pour une revendication d'un droit à l'enfant, ses parents, l'engendrement et la reconnaissance sociale, la parole. Alors j'aimerais aborder ce problème, tout d'abord sous l'angle global de la famille, avant de me pencher sur la question particulière de la procréation assistée, de la façon dont les catholiques et les protestants conçoivent la procréation médicalement assistée, et ensuite la question de la gestation pour autrui. Alors, il est vrai qu'on ne peut pas ignorer que ce débat se passe aussi après le vote en faveur d'une union, d'un mariage homosexuel, et c'est aussi dans ce cadre-là qu'il y a une revendication nouvelle, on pourrait dire un enfant pour tous. Et les églises se sont positionnées, les églises protestantes, les églises catholiques. Je signale que la Fédération protestante de France s'est positionnée contre le vote de cette loi. Mais est-ce aux églises de se prononcer sur ce qu'est la famille ? Certains le contestent. Dans un dossier de la revue Esprit sur le mariage pour tous, le sociologue des religions Jean-Louis Schlegel pose cette question fondamentale. L'Église, alors, quand il dit l'Église, il pense à l'Église catholique. Quand on dit l'Église au singulier, nous, protestants, nous disons les Églises. L'Église, qui prétend annoncer l'Évangile, doit-elle défendre une seule anthropologie en réalité occidentale ? Donc, l'Église doit-elle défendre une anthropologie, c'est-à-dire une conception de l'homme qui ne serait qu'occidentale ? Alors, c'est une question importante. Et il faut rappeler que la mission première de l'Église, des Églises, est d'abord d'annoncer l'Évangile. Oui, mais la mission première des Églises est bien d'annoncer l'Évangile. La famille n'est pas un Évangile. Elle ne sauve pas. Mais la crise du couple est maintenant celle de la filiation. Celui qui est issu d'une procréation médicalement assistée avec donneur anonyme peut se demander qui est mon père, qui est ma mère. Et ne parlons pas des enfants issus d'une mère porteuse. Cette crise du couple, cette crise de la filiation n'est pas une bonne nouvelle pour notre société, tout simplement. Et les chrétiens ne peuvent pas se désintéresser de ce monde dont ils sont appelés à prendre soin. D'autre part, si Jésus annonce l'Évangile, eh bien qu'il soit très critique envers des liens familiaux qui enferment. La laetitienne protestante France Quéré relevait que ce que Jésus dénonce, c'est l'étroitesse des attachements, une charité qui ne dépasse pas les liens du sang. Voilà, ce que Jésus dénonce, c'est une charité, un amour qui ne dépasserait pas les liens du sang. On voit que Jésus se préoccupe pourtant de la famille. Il défend le mariage contre ceux qui facilitent la répudiation. À l'époque, ce n'était pas le divorce, c'était l'homme qui renvoyait sa femme. On voit que l'apôtre Paul également s'est préoccupé des rapports familiaux, n'hésitant pas à dire que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un incroyant. Première épître à Timothée, chapitre 5, verset 8. Donc les églises ne font que prolonger cette préoccupation de Jésus et des apôtres, qui est concrètement la leur quand elles accueillent des familles dans leur bonheur et leur malheur. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi, vous, chrétiens, vous préoccupez-vous de la famille ? Eh bien, je répondrai, parce que la famille, ça ne tient pas tout seul. La famille, ça ne tient pas tout seul. Parce que ce n'est pas un lien si naturel que cela, et qu'il faut des paroles fortes pour aider ce lien à tenir. L'homme s'attachera à sa femme, dit Jésus. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce sont des paroles qui aident à maintenir le lien. On peut penser aussi aux paroles du Décalogue. Honore ton père et ta mère. S'il y a besoin de paroles, c'est bien que les liens du sang ne suffisent pas. Il faut une parole pour les renforcer. Il est donc abusif de taxer de naturalisme ou de biologisme une conception judéo-chrétienne du couple, car elle n'est pas fondée sur la nature, mais sur une parole qui la précède. Si la fécondité des rapports homme-femme est de nature, le couple, comme alliance, et la filiation s'inscrivent dès l'origine dans un réseau de symboles qui lui donnent sens et les tiennent ensemble. Inversement, il serait abusif de taxer de sociologisme toute évolution de la législation sur la famille. Il est légitime que la loi prenne en compte, dans une certaine mesure, l'évolution des mœurs. Par exemple, la loi française a supprimé la catégorie d'enfants naturels. Dans une société où la majorité des enfants naissent hors mariage, cette catégorie n'a plus de sens social. Mais prendre en compte l'évolution de la société n'est pas forcément adapter le droit aux mœurs. Et c'est la professeure de droit Françoise Dekeuwer-Desfossé qui, dans son rapport de 1999, sur rénover le droit de la famille, affirme que le droit ne doit pas, dans une épuisante fuite en avant, tâcher de coller aux pratiques. Il faut proposer un ensemble normatif qui permette aux comportements de s'élaborer et surtout aux familles et aux personnalités de se construire par rapport à des repères stables, sûrs, compréhensible. C'était en 1999. On voit que depuis, l'opinion a évolué. Alors, par exemple, s'il fallait bien que le législateur prenne en compte que, de fait, des enfants sont élevés dans des couples homosexuels, ça c'est un fait social. Inscrire ces couples dans le cadre du mariage en leur octroyant un droit à la filiation, n'était pas obligatoire. On pouvait créer un autre cadre. Appeler cela mariage brouille les repères de la distinction entre les sexes sous couvert d'égalité. En ces temps de déliaison familiale, de démariage et d'incertitude sur les liens, quelles sont aujourd'hui les paroles fortes qui vont nous faire tenir ces liens familiaux ensemble ? Quel message envoie notre société, l'État, la législation, la politique familiale aux familles ? Est-ce que ces messages permettent à ces liens de tenir ? Il me semble que la multiplication des cadres législatifs en matière de couple et de filiation, cette multiplication affaiblit le modèle d'une union conjugale stable, d'une filiation et d'un cadre éducatif stable. Alors, je voudrais répondre aux reproches de Jean-Louis Schlegel sur est-ce que l'Église défendrait une conception de l'homme occidentale, une anthropologie occidentale. À ceux qui disent pour défaire le couple, c'est légal, Jésus réplique, c'est légal, mais ce n'est pas éthique. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit dans l'Évangile, mais c'est ça le sens. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. En rappelant le récit de la Genèse, Jésus éthicise la narration, dirait Paul Ricoeur. Il défend une anthropologie, une conception de l'homme, une vision du monde, comme une création où il y a un ordre. L'historien du Moyen-Âge, Jacques Le Goff, a relevé l'importance pour le Moyen-Âge de ce modèle d'Adam et Ève. Et par exemple, l'Église a construit un modèle du mariage avec l'idée du consentement qui allait parfois contre les mœurs de l'époque. Donc c'est vrai que la Bible a contribué par ses récits à la construction d'une vision du couple et d'une vision la filiation. Alors, est-ce que c'est une anthropologie occidentale ? Je donnerai un exemple. Le législateur chinois demande une attestation de non-homosexualité pour les familles adoptantes. Je ne connais pas l'anthropologie du législateur chinois. Mais manifestement, son anthropologie n'est pas très éloignée de l'anthropologie judéo-chrétienne. Alors, bien sûr, il y a des cultures où il y a des transgressions le genre, hein, ce qu'on dit aujourd'hui, on parle de genre. Mais il me semble que dire que ce serait uniquement l'anthropologie occidentale qui maintiendrait une distinction entre hommes et femmes est tout à fait abusif. Alors, d'autres diront qu'il y a plusieurs modèles familiaux et qu'il faut maintenant ouvrir la famille à une pluriparentalité. Plusieurs modèles familiaux, alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs formes familiales par l'histoire, mais il me semble que la question est mal posée. Il me semble qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas plusieurs modèles familiaux. Je crois qu'on confond modèle et situation familiale. Je pense que le modèle familial en France aujourd'hui est celui du père, de la mère et des enfants. Et la meilleure preuve, c'est que le couple homosexuel, certains couples homosexuels veulent maintenant revendiquer ce modèle. Si le couple est en crise, sur les 32 millions de personnes qui se déclarent en couple, 72% sont mariés. Alors, bien sûr, il faut tenir compte de la pyramide des âges. Plus on est âgé, plus on est marié. Mais ces faits sociaux me semblent relativiser un prétendu nouvel ordre sexuel ou un vide anthropologique. Alors, il y a aussi une grande mode aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a primauté de la volonté sur la biologie. c'est la primauté, certains défendent la primauté de la parenté sociale. Alors je répondrai, on ne peut pas passer sur le corps. Et en particulier, on ne peut pas passer sur le corps d'autrui. Je vais m'expliquer. Par exemple, ceux qui sont favorables aux mères porteuses disent « Ce qui fait la mère, c'est la volonté d'être mère. Ce n'est pas la femme qui porte l'enfant qui va, dans le cas d'une mère porteuse, on lui demande de porter un embryon et quand cet embryon se développe et devient un enfant, à l'accouchement, de donner cet enfant à la mère qui a voulu cet enfant. Et donc, certains disent, eh bien, la mère, c'est celle qui veut être mère. Mais si cet enfant se révèle être handicapé, alors là, la volonté devient très, très faible. Oui, nous sommes à la fois des êtres de volonté, mais aussi des êtres de chair. Oui, tout enfant doit être adopté à sa naissance, reçu par sa famille, et en particulier par le père. Oui, la filiation a une dimension sociale. Mais s'il est accueilli, c'est aussi parce que c'est une chair qui prolonge l'union du couple. Les liens du sang précèdent les liens sociaux. Et il les renforce. Opposer biologique et social, c'est nier la réalité que nous sommes des êtres de chair et de parole. On ne peut pas passer sur le corps d'autrui. Et là, je parle des mères porteuses, sous prétexte de volonté. On ne peut pas passer sur le corps d'autrui comme un simple moyen, sans créer de dommages. Parce que justement, nous sommes à la fois des êtres de chair et des êtres de parole. Alors, la filiation est aujourd'hui aussi devenu un lien fragile. Si le couple peut se briser, on se dit que les liens du sang, eux, devraient demeurer. On divorce d'un conjoint, on ne devrait pas divorcer de ses enfants. En réalité, les liens de filiation sont aussi éprouvés par la rupture des liens conjugaux. Ainsi, une fillette de 9 ans demander à son père l'autorisation d'appeler papa son beau-père. Le père a été blessé par cette demande de sa fille, n'a rien dit, mais ne l'a plus vue pendant 4 ans. Vous voyez que les couples qui se brisent, brisent aussi les liens de filiation. Le psychanalyste Christian Flavigny fait remarquer que le lien propre à la famille s'effrite. La famille se résume désormais à la présence de plus grands et de plus petits, chacun doté de droits. Les petits, protégés du fait de leur vulnérabilité physique et psychique, et non en tant qu'enfants d'eux. Voilà, ça devient une somme d'individus, finalement, la famille. En fait, cette vision de la famille comme une somme d'individus avec des petits et des grands est renforcée par la législation européenne. La professeure de droit, Françoise de Kouwer de Fossé, fait remarquer que sous la pression des conventions internationales, spécialement la Convention européenne des droits de l'homme, il n'est plus possible de faire passer le souci de la cohésion familiale systématiquement avec les droits individuels et spécialement le droit de chacun à l'égalité et à la non-discrimination. Donc il y a une pression, la législation européenne qui valorise le droit de l'individu au détriment de la cohésion même du groupe familial. Sans tenir compte, mais c'est un haut détriment de fait. Alors, il y a évidemment un grand écart entre cette évolution de la famille et de la législation sur la famille avec la famille traditionnelle. En même temps, il ne faut pas idéaliser la famille traditionnelle. Quand on discute avec des amis africains ou asiatiques de culture traditionnelle, on constate souvent qu'ils se sentent écrasés par une culture de la dette familiale. Et pour moi, c'est une des grandes questions par rapport à la famille, comment combiner une culture du devoir familial et le respect du droit de l'individu. Voilà, hein, c'est une question de la cohésion et du respect de l'individu. Et c'est le christianisme, entre autres, qui a favorisé l'émergence de l'individu dans la société occidentale. Jésus, qui distingue les enfants ne sont plus simplement un élément du groupe, mais il les distingue comme personne. Mais on voit aujourd'hui, avec l'individualisme, un détournement de cette valeur de l'individu en individualisme qui isole l'individu de ses liens. Alors, la procréation médicalement assistée vient accentuer ces tendances sociales. Alors, il y a une diversité de visions entre protestants et catholiques sur l'assistance médicale à la procréation, mais il y a aussi des diversités internes à chaque église. Par exemple, officiellement, le magistère catholique, dans l'instruction Donum Vitae de 1987, proscrit tout recours à la procréation médicalement assistée, y compris dans le couple. Alors, ce qui est intéressant, j'ai relu cette instruction, ce n'est pas parce que c'est une procréation artificielle. C'est parce qu'il y a dissociation donc de l'acte de la fécondation et du couple. Et donc, dépersonnalisation, déshumanisation. Alors, c'est vrai que cette dissociation technique de la fécondation pose un problème et crée une certaine déshumanisation, j'en serais d'accord. Mais les protestants parleraient ici de parenthèse technique. Hein, puisque, voilà, si c'est dans le couple, après, ça reste dans le cadre du couple. Alors, mais il y a une diversité interne au catholicisme, puisqu'un des pionniers de la bioéthique en France, le père Patrick Verspiren, signaler qu'il était d'accord avec, dans certains cas, avec la procréation médicalement assistée. L'homme, je le cite, l'homme et la femme qui découvrent, après plusieurs années de véritable vie conjugale, l'existence d'une forme de stérilité tubaire, telle qu'ils ne peuvent espérer avoir un enfant qu'en faisant se rencontrer in vitro leurs cellules génitales, ne témoigne pas nécessairement d'une volonté de mainmise sur l'identité de l'enfant. La fécondation externe peut alors n'être que le prolongement de leur vie sexuelle, le moyen de concrétiser le vœu même de leur amour. Voilà, donc, dans certains contextes, voilà, le père Patrick Verspiren dit que ce n'est qu'une continuation de l'amour conjugal, ce recours à la procréation médicalement assistée. Alors, du côté protestant, il n'y a pas eu d'objection de principe à la procréation médicalement assistée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la perception de la procréation médicalement assistée dans le protestantisme. 1987, le texte « Biologie et éthique » de la Fédération protestante de France voit dans la procréation médicalement assistée un simple palliatif à la stérilité. Il ne voit pas de problème de principe, mais il ne faut pas que la procréation médicalement assistée se passe du couple. Voilà, hein, c'est un petit peu la réserve, mais il n'y voit pas de problème de principe. 1999, la Conférence européenne des églises, la CEC, publie un texte faisant le bilan 20 ans après et parle d'acharnement procréatif. Vous voyez que ça devient déjà un peu plus critique. Et tout en disant que ce qui est de l'ordre de la sexualité et de la procréation est de l'ordre de la responsabilité des individus et de l'ordre de la liberté des personnes, mais que l'enfant doit rester un don. Et 2009, le texte de la commission Église et Société pour les états généraux de la bioéthique, texte auquel j'ai participé, relevait, appelait à une modération dans l'usage de la technique. Une modération dans l'usage de la technique appliquée à l'humain. Et relevait que la procréation médicalement assistée dans le couple restait dans le couple, ça restait une parenthèse technique. Mais si la procréation médicalement assistée commençait à devenir une réponse au désir d'enfant pour tous, en dehors de liens de filiation clairs, eh bien, on passait la parenthèse de la dissociation à la dislocation. Vous savez, dans une phrase, quand vous ouvrez une parenthèse, il ne faut pas que vous refermiez la parenthèse trop loin. Si vous faites 10 phrases et après vous fermez la parenthèse, vous avez perdu le sens de la phrase. Ben, c'est un peu cette image-là. Il y a un risque que cette dissociation technique provisoire, quand elle est dans le couple, devienne une dislocation des liens. Alors, la dislocation extrême, c'est la question des mères porteuses. Alors, vous me direz, dans la Bible, il y a des mères porteuses. Après tout, Abraham et Sarai, qui ne s'appelaient pas encore Abraham et Sarah, ils ont bien recouru à une procréation par servante assistée. C'était l'histoire d'Agar. Mais on s'aperçoit que dans cette procréation, Agar, la servante, a été complètement instrumentalisée en tant que personne. Et en fait, c'était possible parce que dans le droit du Moyen-Orient ancien de l'époque, la servante était considérée comme une chose. Et c'était possible pour l'époux de recourir à cette chose comme moyen de concevoir si sa femme ne pouvait pas concevoir. Donc vous voyez, ce n'est pas, il n'y a pas que des bons exemples à suivre dans la Bible. Il y a aussi, pour notre instruction, des mauvais exemples à ne pas suivre. D'ailleurs, le dissentiment entre Isaac et Ismaël, par la suite, le dissentiment a peut-être généré des suites politiques. Alors, la gestation pour autrui, il me semble que déjà, dans le vocabulaire, là, il y a tromperie. Au début, on a parlé de mère de substitution. Quand on parle de mère de substitution, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est mère. Mais là, quand on parle de gestation pour autrui, on transforme la femme en un moyen, une gestatrice. Alors, bien sûr, c'est sous couvert d'altruisme. C'est le pour autrui qui fait passer la pilule. Donc, le vocabulaire de la gestation pour autrui masque la subordination, un rapport maître-esclave. On avait vu avec Abraham et Sarah leur rapport avec leur servante Agar, c'était un rapport maître-esclave. Alors, il me semble que les objections éthiques qu'on peut opposer à la gestation pour autrui, c'est l'instrumentalisation du corps de la femme, et encore plus quand cette instrumentalisation est faite contre de l'argent. L'abandon d'enfant. Quand vous adoptez un enfant, vous adoptez un enfant qui a été abandonné. Là, on crée un abandon d'enfant en créant la rupture entre la mère qui a porté l'enfant et donc dans son sein, et l'enfant qu'elle a porté. Là, vous créez une rupture et un abandon. Vous créez aussi un peu une confusion généalogique pour l'enfant. Qui est vraiment sa mère ? Celle qu'il a portée ou celle qu'il a adoptée, la mère d'intention, comme on dit. Et finalement, ça fait de l'enfant un bien. Alors, on me répondra que c'est permis ailleurs. C'est interdit en France, mais c'est permis ailleurs. Je ne pense pas que parce que ça soit permis ailleurs, il faut adopter tout ce qui est permis ailleurs. On peut, par des biais, reconnaître, des biais juridiques, reconnaître, par exemple, protéger un état civil de l'enfant sans forcément reconnaître une pratique. On pourrait et aussi, par des traités internationaux, je doute à vrai dire que les États y consentent, mais par exemple, faire que des ressortissants d'un État qui interdit les mères porteuses ne puissent pas avoir accès à cette pratique dans un pays où c'est permis. Alors, j'ai fait un petit peu un panorama de la famille, et l'état de la famille aujourd'hui est mis à l'épreuve de toutes ces demandes, de ce désir d'enfant. Et je voudrais maintenant vous laisser le temps de poser des questions.
On va peut-être attendre quelques minutes que vous ayez le temps de les rédiger, et on va passer parmi vous pour recueillir les questions.